One, two, three, ho!
Alors, au niveau matos, Arnaud, t'as pris le zoom pour enregistrer?
Oh putain, je l'ai oublié!
Bon, bah on va le faire à l'ancienne, c'est pas grave. Si le son est dégueulasse, on dira que...
C'est ma faute.
Ouais. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 67.
67 bis, parce qu'on a oublié d'enregistrer au premier passage.
On a dit cette émission, on fait n'importe quoi, techniquement on la foire, et on va décider de la foirer, et on va la foirer correctement, jusqu'au bout. Comment ça va Arnaud ?
Bah écoute, ça va bien pour la deuxième fois. Est-ce que t'as lancé l'enregistrement ce coup-ci ?
Ce coup-ci ça marche, ouais, on parle pas dans le vide.
Ok.
Alors tu nous parlais tout à l'heure de tes envies de vélo, tu voulais avoir 4 vélos.
J'ai des envies de vélo, c'est impressionnant. Non, oui, j'aimerais avoir 4 vélos, alors on sait que... Le nombre exact de vélos à posséder pour un cycliste étant de N plus 1, N étant le nombre de vélos qu'on possède actuellement. Moi j'aimerais un tandem, un pliant, un vélo de route, et puis un vélo landais classe avec un beau port, un truc sexy quoi.
Bah, je crois que je voudrais la même chose, sauf qu'à la place du tandem, parce que moi je suis désolé mais vraiment le tandem je peux pas, j'ai essayé ça, je ne peux pas. Je voudrais un électrique moi pour aller un peu plus loin, pédaler plus loin.
Ah bah tu vois pourtant le tandem c'est le seul que j'ai acheté maintenant.
Et ben on est avec trois barbus, enfin deux barbus et un demi-barbu. On est avec Guillaume, Simon et Jérémy qui vont pédaler cet été avec un quatrième Lascar. Vous allez pédaler à travers Elliot. La Suisse, ouais avec Elliot. Vous allez faire le tour de la Suisse presque pour récolter des fonds pour le Kenya, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça. Donc on va partir pour une boucle de 700 km à peu près en traversant la Suisse et on va passer par plusieurs endroits célèbres, on va dire, en Suisse. Donc on part de Lausanne pour faire une boucle où on partira du côté de l'est de la Suisse, donc en passant par Fribourg, donc le canton de Fribourg, par Gruyère, après Interlaken, les grands cols, donc au Suston Pass. Après, on ira vers Glaris, au lac du Klöntal. Après, on remontera sur Lucerne pour monter ou gravir le Pilatus. Et après, on va monter sur Bâle et on va revenir par Neuchâtel environ. Donc, on sera parti pour une boucle de 700 km.
Mais en gros, vous faites des vacances, quoi. Faites juste sponsoriser les vacances pour le projet. Enfin, l'argent ne revient pas.
À vous, Guillaume.
Oui, tout à fait, on va partir en vacances. Après, c'est vrai que donc, l'argent qu'on va récolter...
On va pas servir à ces vacances.
On est exactement, d'accord. Voilà. Donc l'argent qu'on va récolter via ce tour et via le projet donc, sera reversé à notre association et on va rénover une école au Kenya.
Donc le but, là, c'est de faire sponsoriser en fait, chaque kilomètre que vous parcourez à travers la Suisse, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On a proposé différentes formules à nos donateurs pour que tout le monde puisse donner une somme qui lui convient. Donc, on a ça part de 35 francs jusqu'à 150 francs. Et puis, bah, bien sûr, ceux qui veulent donner plus, ils peuvent. Donc, on a beaucoup de succès déjà. Ça fait 2-3 semaines qu'on a commencé la récolte. Non, ça fait même plus. Ça fait bientôt un mois qu'on a commencé la récolte. Puis on a déjà... On est super satisfait de l'engouement des personnes. Donc ça se passe super bien pour l'instant.
Oui, il y a des articles là dans la presse. Vous n'êtes pas passé inaperçu. Vous êtes fort en com. Hein.
Ouais, bah, on a déjà eu la chance de faire la première page du journal de Morges. C'est une petite fierté quand même. Ça continue. Là. On était justement eu le contact avec vous, Pause Vélo, et on espère que ça va continuer, ouais.
Ouais, là, on a contacté la RTS dernièrement. On croise les doigts pour qu'ils nous fassent passer avec Darius au 19 francs, quoi.
Alors, j'ai noté 50 km par jour, donc ça va, quand même. Vous êtes hébergé, vous avez besoin d'avoir la toile de tente avec vous?
Alors, justement, on part plutôt en autonomie. On a deux tentes avec nous, on est quatre. Et le but, c'est de vraiment dormir en extérieur. Après, on va profiter aussi de l'occasion pour... créer un contact avec les gens, demander si on peut dormir dans leur jardin ou avoir un petit endroit dans un champ pour pouvoir rencontrer les gens et discuter avec eux aussi et présenter notre projet.
Et puis tout au long du périple, où il n'y a pas de montagne, j'ai noté, hein, petit joueur un peu les gars.
Quand même 1000 mètres de dénivelé par jour,
oui,
en moyenne.
Ah oui, quand même. Ouais.
Par jour,
en moyenne.
Ouais, ouais.
Okay.
Ouais.
Et vous avez des relais, vous allez rencontrer des gens où il y a des étapes qui sont prévues, où il se passe quelque chose de précis.
Des événements.
Alors... pas spécialement, on a peut-être un jour où on est encore en train de regarder qui c'est qui va nous rejoindre, mais peut-être le Pilatus vers Lucerne où on risque de ne pas faire un jour sans vélo et de faire un jour de marche et à proposer aux gens de nous rejoindre ce jour-là.
Ok, d'accord.
Mais alors, est-ce que pour récolter des fonds, ça aurait pas été plus simple de vendre des pâtisseries au marché de Morges ?
Ah. Ouais, c'est vachement moins fun quand même. C'est quand même plus rigolo de se dire. Bon, en fait, l'idée, elle nous est venue l'année passée lorsqu'on a fait un tour, enfin, notre premier vraiment gros tour à vélo. On est parti de la Norvège et puis on est redescendu toute la Norvège, le Danemark, jusqu'à Hambourg. Donc on a fait une jolie trotte. Et puis à la fin de le voyage, on s'est dit, mais c'était génial, on a adoré pédaler, mais on aimerait rajouter un petit quelque chose à notre voyage, un sens supplémentaire. Et on s'est dit, récolter des fonds pour une association ou pour une cause, on ne savait pas encore à ce moment-là exactement pour quelle cause on voulait récolter des fonds, ce serait génial et puis ça donnerait un sens en plus à notre voyage. Et c'est ce qu'on a réussi à transposer cette année.
Alors ce 67e épisode de Pause Vélo est ici consacré à Cycle Magazine qui sort son 15e numéro. Alors encore des super images, des super photos, des super sujets. Et notamment un sujet sur le gravel écrit par Dan de Rosil qu'on a interviewé. Salut Dan de Rosil, tu signes un superbe article dans le numéro 15 de Cycle Magazine. Un article sur le gravel qui s'intitule « Ligne de désir ». Et moi, j'ai deux questions, du coup. Comment est-ce que toi, tu définis le gravel et qu'est-ce que tu voulais dire par « ligne de désir » ?
Le gravel, écoute, c'est pas moi qui dois le définir. Je crois qu'il a pris maintenant suffisamment de place dans le monde du vélo pour qu'à peu près tout le monde sache de quoi il s'agit. Un vélo un peu passe-partout, avec une pratique qui se situe pile entre la pratique du vélo de route et celle du vélo tout-terrain, du VTT. Ça permet de rouler vite et de façon fluide sur les chemins et dans les zones intermédiaires qui ne sont pas les zones où les cyclistes sur route vont oser aller mettre leurs fins pneus en 25 et où les VTT s'ennuieraient parce que ce n'est pas assez technique. Et pour ce qui est des lignes de désir, je n'y suis absolument pour rien. C'est un terme technique utilisé par les urbanistes et qui permet de décrire les pratiques qui contournent ce qui a été initialement prévu pour les usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes, mais essentiellement piétons d'ailleurs. C'est ces fameuses lignes qui traversent les pelouses en diagonale, qui permettent de prendre des raccourcis pour atteindre plus rapidement ou plus facilement son objectif. Et pour les urbanistes, c'est important parce que ça leur montre l'évolution de la ville et quelles erreurs ils ont commises finalement en la dessinant.
Et ton article, il fait rêver parce qu'on est à mi-chemin entre l'aventure, la découverte de lieux secrets et pourtant c'est dans le quotidien. Comment tu arriveras à définir ça, toi ?
Eh ben, c'est peut-être justement là qu'on rejoint cette thématique du gravel, c'est l'idée de l'entre-deux. Les lignes de désir, c'est un espèce de raccourci entre ces deux mondes qui se côtoient, puis en même temps qui sont pas, ils sont joignables que comme ça, parce qu'ils ne sont pas dans le même espace et dans le même temps. Et donc finalement, les lignes de désir, c'est un peu un espèce de trait d'union entre tout ça.
Fais-nous rêver des trésors que tu découvres quand tu fais du gravel.
Je crois que c'est quand même des trésors d'humilité. Juste à côté de chez moi, j'ai la chance d'habiter à côté d'un canal. Un canal qui a été tracé il y a plusieurs siècles par un Hollandais qui est venu, un spécialiste des polders, qui est venu expliquer aux gens ici qu'en faisant un canal, il pourrait drainer la plaine et la transformer en plaine agricole alors que c'était des marais. Et pourquoi je dis que j'ai la chance d'habiter à côté d'un canal ? Parce que qui dit canal dit digue. Et donc, on peut, grâce à cette digue, être immédiatement sur un parcours de gravel. Dès la ville, en restant en ville, on peut immédiatement s'échapper des rues et de la circulation automobile. Et donc, en longeant cette digue, où je suis très légèrement en hauteur par rapport au paysage, qui est forcément très plat autour, j'ai une vision surplombante de la vie des gens autour de ce canal. Et par exemple, en ce moment, il se passe quelque chose de très drôle, c'est que des habitants ont monopolisé les berges de la digue pour faire des petits jardins. Tout à fait sauvage, je ne pense pas qu'ils aient la moindre autorisation de faire ça, mais cet espace libre laissé entre la partie urbanisée et le bord du canal, cette pente de digue a été occupée par des jardiniers qui plantent des tomates. Alors, ils ont fait des petites barrières avec des cannes de Provence. C'est très humble, c'est très provisoire, mais je trouve ça magnifique.
Eh ben, on te souhaite de belles aventures. À bientôt, Dan.
Merci, à bientôt.
Alors cet article de Dan de Rosil, vraiment, je vous le recommande. C'est plein de poésie, plein de belles métaphores. Déjà rien que le titre, Ligne de désir. Et puis tout le magazine, de toute façon, Cycle Magazine, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est vraiment un super beau.
Très joli. Ouais.
D'ailleurs, Dan, en off, il me dit on ne devrait pas appeler ça un magazine, c'est plutôt une revue. Ça sort tous les 6 mois. C'est tellement bien fait, c'est tellement un bel objet, que c'est pas dans l'actualité. Vraiment, je vous le recommande. On est toujours avec les barbus qui vont partir à l'aventure cet été pour récolter des sous pour une école au Kenya. Comment ça va les gars? Toujours bien, heureux, épanoui?
Super.
Toujours très bien.
C'est ouais, ça sert à rien de secouer la tête, on est à la radio. Donc, s'il vous plaît, parlez.
Alors, on parlait aussi hors antenne, hors micro, du fait que vous aviez tous fait du vélo avant, vous êtes partis visiter des pays, tout ça, mais vous êtes dit, mais la Suisse, c'est quand même un beau pays, pourquoi pas pédaler chez nous?
Tout à fait, donc en fait... On est parti, comme l'a dit Jérémy l'été passé, on est la Norvège, le Danemark.
Est-ce que c'était votre premier voyage à vélo?
Non, on était parti avec Jérémy justement l'été d'avant, on est descendu à la mer à Marseille. Donc l'été passé, on a fait ce voyage avec donc, les quatre, Jérémy, Simon, Elliot et moi-même. Donc on a fait la Norvège, Danemark jusqu'à Hambourg. Et en fait, on a adoré les paysages, on a adoré tout ce qu'on a vu là-bas. Mais au final, on s'est dit que tous nos étés, on les passait... ailleurs qu'en Suisse, et on avait envie de profiter un peu plus, de se familiariser un peu plus avec notre beau pays. Et en plus, ça tombe bien parce que donc le coronavirus est arrivé et puis on peut pas sortir de la Suisse cet été, donc c'est parfait.
Ouais, non, c'est clair. Ah, ça tombait bien alors.
Bah en tout cas, c'est un beau projet que vous avez. Maintenant, on peut parler un peu de ce qui va se passer au Kenya. Bah, déjà, moi, la première question, c'est comment ça vous est venu l'idée? Quel contact vous avez eu avec le Kenya? Parce que j'imagine que l'école, vous l'avez pas trouvé au hasard. Comment ça s'est passé?
Donc en fait, le projet du Kenya, donc ma mère est tombée amoureuse de Koitamet, qui est un Maasai en fait, qui habite dans la région de Narok, dans le bush kenyan. Et en fait, je me suis rendu là-bas en février dernier pour rencontrer le peuple Maasai.
Et déjà, le peuple Maasai, ça claque quoi.
Ouais, les Maasai.
Donc la tribu Maasai, voilà. Et en fait... durant mon voyage, j'ai eu l'occasion de me rendre à l'école primaire d'Oletuya. Et en fait, à ce moment-là, ben, j'ai pu rencontrer les professeurs, les directeurs de l'école, les étudiants. Et c'est là que j'ai pu voir un peu le besoin en fait, de l'école. Il manque des fenêtres, ils sont vraiment agglutinés dans les salles de classe. Du coup, je me suis dit, comment on pourrait leur venir en aide en fait.
C'est vrai que moi, j'ai vu des photos. Ouais, il y a besoin de quelques réaménagements en fait.
Exactement, puis ben, comme on avait envie de refaire un voyage tout en amenant une cause supplémentaire à cela, en rentrant du Kenya, je me suis dit, ben, on a trouvé notre cause à défendre et c'est comme ça que vous arrivez l'idée du Kenya et d'aider justement l'école primaire d'Oletuya.
Alors moi, les images que j'ai de ce genre d'école en Afrique, elles sont peut-être fausses, mais c'est que par exemple, ils ont même besoin de stylos, ils ont besoin de livres, ils ont besoin de tout en fait, ils sont vraiment dépourvus quoi. Les murs sont complètement vierges, il n'y a rien, ou c'est une bonne image que j'ai, ou c'est un peu évolué depuis?
Exactement, donc là-bas à l'école, ils ont les livres, les livres de mathématiques, de Maasai, de géographie, d'histoire, mais après il leur manque cruellement des cahiers en fait ou des stylos. Donc nous quand on a été en février, on a déjà apporté passé 200 cahiers, des stylos, etc. Donc oui, il manque cruellement de matériel scolaire.
Moi je suis un peu extrémiste écolo, du coup mes cahiers je les use jusqu'au bout, et puis genre si c'est un cahier qui m'a servi avant, j'enlève les feuilles qu'on servit, puis je garde les feuilles encore vierges pour écrire des trucs. Je suis assez aussi écrire au crayon à papier plutôt qu'à l'ordinateur. Du coup, vous récoltez un peu de tout. Si genre j'ai des cahiers, il y a quelques feuilles en trop, vous récoltez ça, vous l'envoyez, ou vous récoltez seulement des sous?
Donc,
enfin là, dans ce projet-là, c'est que des sous, c'est que de l'argent que vous récoltez dans ce projet-là. L'association, c'est Namlok Farm Association, c'est ça. Elle s'occupe plus de récolter des dons, enfin de l'argent, mais aussi des livres, des cahiers, ce genre de choses.
Ok, exactement, oui. Donc l'association s'occupe de tout ça. Notamment ces derniers temps, elle a récolté des fonds pour apporter de la nourriture en fait au peuple Maasai. C'est parce que tous les marchés sont fermés et c'est leur seul moyen de revenu en fait.
Les marchés sont fermés à cause de
les marchés sont fermés du coup, exactement.
Ah ouais, même coronavirus, il est là-bas aussi quoi.
Exactement. Puis en fait, c'est leur seul moyen de revenu parce que quand ils veulent acheter à manger, ben vu qu'ils n'ont pas forcément de compte en banque ou comme ça, ils prennent une chèvre, ils vont la vendre. Puis avec l'argent qu'ils ont gagné avec, en vendant la chèvre, ben, ils peuvent s'acheter à manger ou autre. Ah oui, d'accord. Besoin. Donc, vu que tous les marchés sont fermés, l'association de Namlok Farm Association a fait des récoltes de fonds pour justement venir en aide aux personnes vraiment défavorisées de la région de Nekara, donc au Kenya.
Alors, avec les sous récoltés, vous avez déjà une idée de ce qui peut être fait selon la somme? Admettons, je ne sais pas si c'est 5000 francs, si c'est 20000 francs, qu'est-ce qui peut être fait en fait?
Donc, pour notre projet, donc l'idée de base était de récolter 1000 francs pour refaire toutes les fenêtres de l'école. Donc là, l'objectif est déjà atteint. Donc on a déjà passé ce cap, donc on est vraiment très content de cela. Et puis pour les prochaines étapes, en fait, on a une étape où on aimerait pouvoir construire une cantine, donc un réfectoire dans l'école, qui permettrait à tous les étudiants, à tous les élèves de manger dans l'école, avoir un endroit couvert, et puis de ne pas devoir manger dehors ou comme ça. Dans un autre temps, l'idée serait de construire un dortoir, parce qu'en fait, les étudiants de dernière année, avant de passer leurs examens, les parents, en fait, ils les gardent à la maison pour éviter qu'ils passent les examens et qu'ils puissent continuer à faire leurs études.
Donc, en fait, qu'ils partent après, qu'ils restent travailler plutôt à la maison, enfin à la ferme ou ce genre de choses, quoi.
Exactement, donc tous les étudiants de dernière année, ils dorment toute l'année scolaire dans l'école pour être sûr de pouvoir passer les examens et pouvoir continuer leur scolarité. Et en fait, tous ces élèves, ils dorment dans les salles de classe sur des matelas. Donc si on récolte suffisamment d'argent, ce serait de pouvoir leur amener suffisamment d'argent pour pouvoir construire un dortoir.
J'aimerais en savoir un peu plus sur l'école. Il y a combien d'élèves et c'est de quel âge à quel âge?
Il y a à peu près 500 élèves et puis de 6 à 14-15 ans.
Et ben, je vous propose qu'on continue avec le cycle magazine et on va avoir une lecture de Quentin qui va nous parler d'un article sur les développements, tout ce qui est grand pignon, petit plateau, etc. Il y a un superbe article que va nous lire Quentin.
L'histoire des développements des bicyclettes a débuté sur les pistes poussiéreuses et s'est déroulée jusque sur les routes asphaltées. Dans le flou des nombreuses idées qui finalement composent un vaste récit, l'histoire des développements métriques est étroitement liée aux routes que les cyclistes durent affronter. Elle est évidemment aussi associée à la technologie disponible au fil du temps et à l'évolution du matériel. Mécanique qui permet de se déplacer, assis à cheval sur deux roues en tirant profit d'un équilibre difficile à imaginer avant d'avoir soi-même essayé, la bicyclette, dès son arrivée, a immédiatement fait comprendre les atouts d'un moyen de transport qui apparaissait avant tout curieux et insolite. On donna d'abord de l'élan en poussant avec les pieds, puis en pesant sur des pédales fixées sur la roue avant. La bicyclette prenait doucement forme. Pourtant, il manquait encore quelque chose. On était encore loin de la bicyclette qu'on connaît aujourd'hui. La recherche de la vitesse. Un tour de pédale pour un tour de roue. Avec des pédales fixées au moyeu avant, il n'y avait pas d'échappatoire, et le développement métrique était donné par la longueur exacte de la circonférence de la roue. C'était une avancée modeste si on pense qu'il s'agissait plus ou moins de ce que l'on considère aujourd'hui comme un développement très agile pour affronter les pentes les plus difficiles. Mais c'était un grand pas dans la perception du concept en train de naître, l'existence d'une relation entre tour de pédale et tour de roue. En réalité, déjà à la fin du XIXe siècle, on se rendait compte qu'une marge de manœuvre existait. De plus, l'idée d'un système de transmission qui verrait le mouvement des pédales dissocié d'un rapport 1-1 du nombre de tours de roue était dans l'air. Mais il faut tenir compte des possibilités techniques de l'époque et aussi des conditions des routes. Des mécanismes qui semblaient à la base complexes ne trouvaient pas d'application, à cause du poids et de la fonctionnalité limitée du matériel. Par conséquent, on privilégia d'abord des solutions plus simples et efficaces. Les pédales fixées au moyeu imposaient un rapport 1-1, la solution consista à augmenter la circonférence de la roue. Le cas du Granby en est l'illustration, qui, par contre, était peu pratique et plutôt dangereux, car le cycliste était contraint d'être assis très en hauteur par rapport au sol. À vrai dire, l'idée d'un système de transmission à chaîne apparut presque en même temps que l'introduction des pédales sur le moyeu de la roue antérieure. Mais les principales difficultés dans la réalisation, on est toujours en train de parler de la fin du XIXe siècle, étaient toujours d'ordre pratique, à commencer par la fabrication d'une chaîne assez résistante, avec les bonnes dimensions.
Et bien, si vous voulez la suite de cet article, parce que là, ça n'était que le début, le tiers, et bien, vous achetez Cycle Magazine, le numéro 15 qui vient de sortir. On est toujours avec les barbus cyclo-voyageurs qui collectent des sous pour une
équipe. C'est un bon nom d'équipe, ça, les barbus cyclo-voyageurs.
Ah ouais, c'est pas mal, ça.
Les barbus. On
en a de plus en plus, des barbus. Hein.
Ouais, c'est la mode.
On vient de parler de votre périple et tout ça. Est-ce qu'en tête, vous avez déjà des idées de choses que vous allez faire après, de coups de pédale?
Moi, j'ai toujours voulu partir en Italie, rejoindre ma famille, qui habite au nord de l'Italie, un vélo.
Ouais.
Maintenant, faut que je motive mes potes pour qu'ils m'accompagnent.
Bon, cette année, c'est mort.
Ouais. On a déjà pas mal de kilomètres cette année, donc on va faire l'année prochaine.
Alors, le but du jeu, donc, c'est de récolter des sous. Mais comment on fait? Admettons, moi, j'ai envie de donner des sous. J'ai entendu votre voix sur Pause Vélo et j'ai envie de donner des sous. Comment je fais?
Bah, on a plusieurs moyens pour nous contacter. On a un site internet, www.namlock.com. Vous pouvez directement aller dessus et il y a toutes les informations dessus. On a une page Instagram aussi, Namlock Farm Association.
Namlock, ça s'écrit comment?
N-A-M-E-L-O-K.
Ok. C'est un nom Maasai? Non? Je dis n'importe quoi.
Non, c'est pas un nom Maasai.
Ça veut dire quoi?
D'accord.
Honnêtement, j'en sais rien.
On coupera ça au montage.
C'est pas nouveau.
Et vous avez tout ce qu'il faut en page Facebook et tout ça. Si on tape ça dans Google, on vous retrouve facilement là.
Ouais, normalement, il n'y a pas de souci.
Et sur le site, donc, on trouve le moyen de faire un don.
Ouais, exactement. Il y a la page avec le financement, avec les différents paliers qu'on propose, tarifs par kilomètre. En bas, vous avez le lien pour faire directement un don à la SAS.
Et si on vous croise en train de pédaler en Suisse, on peut aussi vous arrêter et faire « Hey, je vais vous donner des sous ?»
Ouais, bien sûr.
Ça marche.
On lui prendra, ouais, pour la bière du soir. C'est toujours bien d'avoir un peu de sous.
Ah oui, d'accord.
Non, on aura deux, trois documents avec nous aussi pour pouvoir donner aux gens et leur montrer ce qu'on fait pendant notre voyage.
Et vous serez reconnaissable en train de pédaler? Vous aurez un drapeau, des perruques?
C'est quatre barbus, quoi.
Oui, après, ouais. Il y en a de plus en plus, des barbus, c'est ça le problème. Il n'y aura pas un petit drapeau, un carton, un truc sur vos sacoches pour qu'on puisse vous reconnaître?
On est en train de regarder pour se faire des maillots, mais ouais. On est un peu limite dans le temps, et puis on... C'est encore à voir, mais c'est pas sûr.
Vous partez dans 3 semaines.
Ouais, on part le 4 juillet, ouais.
Ouais, ça rigole pas. Hein. Mm-hmm. Le jour de la fête nationale des États-Unis d'Amérique.
On sera mieux ici.
On sera mieux.
Est-ce que vous êtes cycliste du quotidien?
Oui.
Tout à fait,
tout
oui.
À fait.
Ah, des vrais, quoi. C'est pas juste pour le sport et tout ça.
Non, il faut s'entraîner pour pouvoir partir en voyage avant. Ouais.
Oh, parce qu'on avait un cycle voyageur, lui, il est parti du jour au lendemain au Japon, il a pas eu d'entraînement avant, quoi.
Ouais, il est fou.
Au Cannes,
ouais. Enfin, ouais, on fait nos trajets pour aller à l'Uni, à vélo, pour se rendre visite entre nous aussi, enfin, c'est plus pratique, quoi.
C'est plus rapide, hein.
Plus pratique, plus rapide.
Et qu'est-ce que vous pensez qui est en train de se passer en ce moment pour les cyclistes du quotidien? C'est pas un moment merveilleux qu'on est en train de vivre?
Alors... Les routes sans voiture pendant le confinement, ça c'était...
C'était encore mieux.
C'était plaisir.
On est d'accord.
Les feux orange, ça c'est... Toute la journée, c'est magique.
Ah, du bonheur en bas.
Alors, concernant les feux, la réglementation va changer à partir du 1er janvier. En Suisse, on pourra tourner à droite si le feu est rouge. Les cyclistes pourront tourner à droite au feu rouge. Uniquement en Suisse, à partir du 1er janvier, dans toute la Suisse.
Au moins, ce sera légal.
Oui.
Eh bien, on va continuer dans les informations qui nous apprennent des choses sympas. C'est la Minute Inutile.
Vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va.
Le pneu tubeless. Le système tubeless est un système de pneus sans chambre à air. Cette dernière fonction est ainsi intégrée au sein de la membrane inférieure et du plaquage. Ces éléments garantissant l'étanchéité du pneu. Concrètement, la chambre à air du pneu tubeless figure dans la partie interne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette chambre à air peut être gonflée grâce à une valve prévue à cet effet. Ce système assurerait l'amortissement du pneu. Si vous souhaitez investir dans ce type de pneu, vous devez ainsi vous assurer d'acquérir une jante spécialement adaptée au pneu tubeless. En raison de ses caractéristiques techniques, le pneu tubeless amoindrit les risques de crevaison. Si tel est le cas, il n'est pas sujet à un dégonflage rapide tout en évitant une déchirure de valve. Raison pour laquelle il est de plus en plus utilisé par les cyclistes. Au détriment du pneu classique. La pression de gonflage faible de ce type de pneu lui permet outre cela d'offrir un meilleur rendement ainsi qu'une accroche optimisée. Il est toutefois à signaler que le montage d'un tel pneu requiert une certaine technique. L'application des instructions relatives au montage est impérative de manière à garantir l'étanchéité du système. Ce manque de simplicité peut s'avérer être un handicap pour les personnes pressées ou celles qui ne maîtrisent pas l'art du montage de pneus. Les avantages du pneu tubeless. Les amoureux de la petite reine y trouvent de nombreux avantages, qu'ils soient professionnels ou promeneurs du dimanche. Principale amélioration, le risque de crevaison qui a considérablement baissé. Parmi les autres avantages, on note une meilleure étanchéité, un amortissement plus confortable et une meilleure accroche à la route. La pression des pneus est plus faible que sur les modèles anciens et les déchirures de valves sont devenues rares. Les inconvénients du pneu tubeless. Malgré les risques amoindris de crevaison, ce type de pneu peut en être victime. Si tel est le cas et que vous continuez de rouler, le pneu tubeless pourrait être irréparable. Outre cela, il est plus onéreux qu'un pneu à chambre à air. Il faut de ce fait prévoir un budget relativement conséquent pour l'acquérir. Si vous êtes obnubilé par l'allègement du vélo, les pneus tubeless augmentent généralement le poids de celui-ci. En effet, un tel pneu nécessite une jante particulière qui est plus lourde que la moyenne. Ce souci peut être réglé grâce à un bon réglage de la pression qui optimisera vite ses performances du vélo. Cet ajustement permet au tubeless d'être de plus en plus populaire, même dans le cercle des compétiteurs.
Où va la vie? Vélo va.
Voilà, encore un instant bien inutile. Eh ben, il est déjà l'heure de se quitter, mais avant de se quitter, je voudrais qu'on fasse un petit erratum, parce qu'on a fait une émission sur le fait de pouvoir électrifier son vélo, c'est-à-dire qu'on prend son vélo de base qu'on a depuis des années dans son garage, et puis on met un petit moteur électrique dessus. Eh bien, en Suisse, c'est légal, mais en France, ça n'est pas légal, parce qu'il y a un problème d'assurance, si on transforme le vélo, qu'il arrive un problème...
Okay.
Même le réparateur, il doit le signaler. Donc voilà, c'était important qu'on le dise dans l'émission.
En Belgique, tu sais ?
Aucune idée. Je ne sais pas ailleurs dans le monde, ni au Canada, parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs au Canada. Ça, ça fait d'ailleurs super plaisir. On va se quitter en musique avec les derniers Trouvères et leur titre « Les vireurs de mai ». Et puis n'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de
faire un don à l'association.
De faire un don à l'association. Et surtout, très important pour nous les amis, pour sauver l'humanité,
faites du vélo!
Autour de l'arbre vert, la ronde que l'on y fait, c'est notre joie qui prospère. C'est le mois de mai, de Maya et Marie, les vireurs qu'on est, le chante, le vire et l'on rit. Today Maya Mary is our queen.
Mary, month of May, Mary, month of May. Around the world we may intertwine ribbon ways, it is like our lives ways. Mary, month of May, Mary, month of May. Around the world we may intertwine ribbon ways, it is like our lives ways.
Mary, month of May, let us dance and play. Bees and birds awaken, let us share our fun. Merry month of May, on the very first day, all around a coral tree, we all move in harmony.
Merry month of May, Merry month of May. Around the pole we may intertwine ribbon ways, it is like our lives ways. Merry month of May, Merry month of May. Around the pole we may intertwine ribbon ways, it is like our lives ways.
Merry month of May, April was too cold. We are so glad today to get rid of our cloth. Merry month of May, Maya Mary is our queen. We crown her and pray so that happiness will win.